Outsider numéro 5, Dynastie Gramont, le 12 et le 5.
La chirurgie esthétique. Nous en parlons avec le docteur Vladimir Mitz, chirurgien esthétique, auteur de Chirurgie esthétique pour ou contre chez Flammarion. Bonjour Vladimir Mitz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin si tôt. Vladimir Mitz, nous regardions cela. Je regardais les chiffres et j'étais assez frappé. Les jeunes, les 18-34 ans, font plus de chirurgie esthétique que les personnes de 50 à 60 ans. C'est absolument invraisemblable. Que se passe-t-il ? Le monde change, Vladimir.
Je dirais qu'il y a deux explications.
Oui.
La première, c'est que les jeunes, maintenant, avec les réseaux sociaux, la télévision, la télé-réalité, ont conscience qu'un changement peut être apporté au niveau de leur corps, de leur visage ou de leur corps. Et cela produit chez eux un véritable tremblement dans leur conscience quand ils prennent justement conscience qu'ils ont un complexe. Et le deuxième problème, c'est qu'ils savent que c'est possible. Il y a eu de tels progrès, aussi bien en médecine esthétique qu'en chirurgie esthétique, que l'accès à ce changement devient possible. Il n'est pas simple pour un adolescent, parce qu'en général, ils n'ont pas d'argent. Donc, il y a ce problème à franchir, et il faut que les parents acceptent. Et heureusement, d'ailleurs, parce que cela permet à nous, chirurgiens ou médecins esthétiques, de temps en temps, de freiner des demandes qui sont exagérées.
Nous allons développer tout cela. J'ai simplement une question. Est-ce que la chirurgie esthétique peut être utile chez les 18-34 ans, chez certains jeunes?
Oui, parce que la nature est assez injuste pour 80% de personnes, de jeunes adolescents qui vont bien s'accepter, qui vont grandir, qui vont être heureux dans leur corps. Il y a pratiquement 20% d'entre eux qui ont un petit complexe. Et ce petit complexe ne va pas facilement s'effacer. Par exemple, à partir de l'âge de 14-15 ans, pour un jeune garçon ou fille, avoir un nez qui est un petit peu grand, qui le complexe, et il voit que son père, sa mère ou un oncle a ce grand nez qui est familial. Donc il sait qu'en fait, il est condamné à avoir un grand nez. Il accepte ou il se révolte. Pareil pour une jeune fille. Elle a 16 ans, elle n'a pas de poitrine. Et dans ses activités scolaires, ludiques, sportives, elle va avoir ce complexe. Elle sait que dans sa famille, ça se reproduit. Elle n'est pas la seule. Et donc, elle va se dire, j'ai envie de faire quelque chose. Et si vous voulez, cette grande pulsion vers la chirurgie esthétique s'explique par le fait que tout le monde se regarde, tout le monde se voit, tout le monde s'exhibe. Et c'est cela qui entraîne cette demande incroyable de chirurgie chez des jeunes.
Nous allons développer Vladimir Mitz, docteur Vladimir Mitz, qui est chirurgien esthétique et auteur de Chirurgie esthétique pour ou contre chez Flammarion. Et notre invité ce matin, 6h47, tout de suite.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Allez, nous sommes avec le docteur Vladimir Mitz, qui est chirurgien esthétique. Nous parlons du boom de la chirurgie esthétique chez les plus jeunes, les 18-34 ans. Alors, vous en recevez dans votre cabinet, j'imagine. Quelles sont les demandes que vous avez les plus fréquentes?
Elles vont de la tête aux pieds, mais je dirais qu'il y a des demandes qui sont peu connues du public. Par exemple, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui est venue parce qu'elle était trop ronde de visage. On appelle ça le chérubinisme. Et cette jeune fille, elle voulait avoir des angles. Elle voulait être mieux marquée, en quelque sorte, avec des pommettes plus saillantes et des joues un petit peu moins rondes. C'est pas une demande si rare que cela, parce que cela donnait à cette adolescente un côté bébé qu'elle va continuer à porter comme ça. Elle peut arriver à 25 ou 30 ans avec toujours ce côté rond. Peut-être qu'à cet âge-là, elle s'accepte. Mais il est possible, dans un certain nombre de cas très, je dirais, très ciblé, d'accéder à cette demande par un petit dégraissage, en quelque sorte, des joues. Et c'est ce que j'ai fait chez cette jeune fille, après en avoir discuté avec les parents.
Alors, j'imagine que quand vous voyez arriver une jeune fille ou un jeune homme, je sais pas, de 20 ans, 18 ans, 20 ans, vous hésitez beaucoup, beaucoup avec elle ou avec lui, avant de décider d'une éventuelle opération.
La règle, c'est de savoir est-ce qu'il y a un vrai complexe. Et la deuxième règle, est-ce que ce complexe repose sur une base anatomique où il y a vraiment un problème, une anomalie que nous pourrions corriger. Je vais vous donner un autre exemple qui est très peu connu. Un garçon qui vient à l'âge de 15 ans et qui n'enlève pas son t-shirt, qui ne veut pas faire de sport parce qu'il a une poitrine quasi féminine. On appelle cela une gynécomastie, ce n'est pas très connu, et c'est évident.
Ça arrive.
Et quand ce jeune homme se cache comme ça, les parents ne comprennent pas, parce qu'il est grand, il est beau garçon, pour quelle raison se cacherait-il? Et donc c'est important, parce que pour le père ou la mère, une opération ou une diminution de la poitrine chez un garçon est quelque chose qui n'est pas très concevable. Eh bien ça existe, ça fait partie d'une pathologie, et ce développement anormal des glandes mammaires chez un garçon, ça les complexe énormément. Le traitement d'ailleurs est chirurgical et il y a même une prise en charge par la sécurité sociale.
Vous voulez dire que la demande de chirurgie esthétique de la part d'un jeune ou d'un jeune homme ou d'une jeune fille cache bien souvent un problème psychologique?
Oui, il y a presque toujours un problème psychologique. Oui. Et on peut faire la différence entre deux types d'adolescents, ceux qui vont assumer ces petites anomalies, ils vont faire du sport, ils vont être excellents dans leur, dans leur travail, et puis ceux qui, au contraire, vont se dire « cela me gêne, cela me complexe », ils vont se renfermer. Et toute la difficulté pour nous est de savoir si un acte chirurgical peut les aider. Pour beaucoup de personnes, on pourrait se dire il faut être écolo, il faut les laisser comme ils sont, ils vont se développer, ils vont grandir. Mais la réalité est un peu différente, parce que quand ce complexe s'installe et que les jeunes se cachent, n'y arrivent pas, nous devons les écouter et parfois accéder à leurs demandes.
Vladimir Mitch, j'ai vu que le réseau social Instagram a décidé de bannir les filtres qui modifient l'apparence physique.
Oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien, parce que c'est devenu un véritable jeu international. Oui. Et ces jeunes filles ou ces jeunes garçons se modifient le nez, se mettent des cils ultra longs, augmentent leurs lèvres. Voilà une autre demande qui est très curieuse chez les jeunes filles. Qui
très fréquente.
Relativement fréquente, je dirais. Mais cela peut être justifié par le fait qu'on se maquille de plus en plus tôt et que les sorties en public avec des copains ou en groupe, on est obligé de montrer qu'on est remarquable en quelque sorte. Oui. Et quoi de plus remarquable que d'avoir des lèvres pulpeuses que l'on peut maquiller en rouge et qui donnent ce côté starlette.
Oui. Quelles sont les demandes les plus fréquentes? Le nez?
Alors, au niveau du visage,
seins,
c'est le nez.
La liposuction.
Oui, tout cela. Et alors, une demande qui est assez développée en ce moment, et que je tiens à signaler et à freiner, c'est la demande de chirurgie des organes sexuels féminins.
Oui.
Parce que il y a, à cause de la diffusion de la pornographie, des sites pornographiques, une prise de conscience chez les jeunes filles que l'apparence de leur sexe n'est pas dans les normes. Pour nous, chirurgiens plasticiens, il n'y a pas de normes. Tout le monde est normal, en quelque sorte. Il faut savoir s'accepter. Oui. Mais il y a des anomalies par rapport, je dirais, à des limites. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, cela existait depuis très longtemps.
Beaucoup de jeunes filles demandent.
Il y a une demande de la part des jeunes filles d'avoir des lèvres génitales qui sont, non pas augmentées, mais un peu réduites. Et c'est une demande qui est de plus en plus en extension, en expansion, et même aux États-Unis, il y a une exagération, et cela vient des poupées Barbie. Parce que les poupées Barbie n'ont pas de poils et n'ont pratiquement pas de fente génitale. Et il y a une demande chez les jeunes filles d'abraser en quelque sorte l'existence de leurs petites lèvres. Bien entendu, en France, cette tendance est très combattue.
J'imagine que vous combattez cela.
Absolument.
Absolument. Merci Vladimir Mitz. Vraiment, merci d'être venu nous voir. Passionnant. Chirurgien esthétique, auteur de Chirurgie esthétique pour ou contre chez Flammarion. Et voilà un médecin qui pratique son métier comme il faut. Vous m'avez compris. Parce que dans la chirurgie esthétique, docteur Mitz, c'est pas toujours le cas. Non, sans vouloir taper sur vos confrères, mais...
Je dirais qu'en France, avons la chance d'avoir une chirurgie esthétique exceptionnelle, inventive, humaine, parce que la formation a été excellente et que nous nous réunissions régulièrement pour conserver une éthique de médecin.
Ça veut dire, Vladimir, que dans certains pays, on est prêt à tout.
Absolument.
Certains chirurgiens sont prêts à tout.
Bien sûr.
À répondre à toutes les demandes.
Par exemple, le Brésil est un pays d'expansion de la chirurgie esthétique, parce que tout ce que demande la femme ou l'homme peut être réalisé. Cela excite même certains chirurgiens d'inventer des opérations aberrantes.
Aberrantes. Bien, merci beaucoup Vladimir Mitz. Il est 6h49, 7h10. Vous êtes sur RMC, vous réagissez.
Hein, à suivre.
Oui.
Ces montres capables d'appeler les secours si vous êtes en danger, de repérer vos anomalies cardiaques, une présence trop forte de sucre dans votre sang. Objets connectés qui peuvent donc vous sauver la vie. C'est déjà demain dans un instant sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Et vos messages, vos témoignages au sujet de la chirurgie esthétique. David nous écrit, j'ai 35 ans. Oui, j'ai déjà eu l'envie de faire appel à la chirurgie esthétique, plutôt réparatrice, celle pour gagner quelques centimètres. Ma petite taille fait que je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. Pour le reste, bon, il y a le sport, une bonne hygiène, pas besoin de la chirurgie. Claire nous dit aussi, je suis complexé par mes bourrelets, ma petite poitrine, notamment quand je me compare avec mes copines. Je suis allé consulter, mais on s'est rendu compte avec mon chirurgien que la chirurgie ne résoudrait pas mon problème. C'est avant tout une acceptation de soi. En plus, il faut savoir que c'est très cher, plusieurs milliers d'euros. Je n'avais pas les moyens. Bertrand nous dit, si les gens ne se sentent pas bien dans leur peau, que la chirurgie esthétique peut arranger ça, pourquoi pas. Il faut dire aussi qu'il y a les effets suiveurs de certaines personnes qui veulent ressembler aux gens de la télé-réalité. On en a parlé, c'est vrai, les influenceurs qui font aussi de la promotion, justement, de ces centres esthétiques parfois douteux en Tunisie, nous dit Bertrand. Et puis Hervé nous dit, moi, faudrait voir le problème plus globalement au niveau chirurgical, convoquer Bouygues et attaquer directement les fondations, nous dit Hervé ce matin.
RMC, c'est déjà demain.
Oui, il est avec nous, Anthony Morel. Les objets, bonjour d'abord.
Bonjour Jean-Jacques.
Les objets connectés ne sont pas toujours de simples gadgets. Vous les défendez, c'est vrai.
Un petit peu quand même.
Ils peuvent être utiles et même sauver des vies. Vous nous racontez l'histoire incroyable d'un randonneur qui a pu être secouru en urgence après une chute. C'est sa montre connectée qui lui a sauvé la vie.
Exactement, en prévenant les secours toute seule, sans rien demander à personne. Alors c'est une histoire qui fait le tour des médias américains ces derniers jours, celle de ce jeune homme, James Prudenciano. Il a 28 ans, il part en randonnée dans un parc du côté du New Jersey. Et là, il va faire une chute, mais alors une vraie chute de 30 mètres. Il glisse, il tombe d'une falaise, il tombe dans une rivière, il s'échoue sur un rocher, il a 3 fractures, il ne peut absolument plus bouger. Il est immobilisé. Là, il croit qu'il va mourir. Et en fait, c'est sa montre connectée. Alors, il a une Apple Watch et les dernières versions sont équipées d'un détecteur de chute. Donc, la montre comprend qu'il est tombé, lui demande « Est-ce que vous voulez appeler les secours ?» Et s'il reste immobile, et c'est le cas, il reste immobile pendant plus d'une minute, eh bien, c'est la montre qui, elle-même, va composer le 911, donc le numéro des secours américains, avec une alerte géolocalisée, puisqu'elles sont équipées d'un GPS. Et ça va permettre au secours, eh bien, d'intervenir rapidement et de venir le sauver. Donc, voilà une
extraordinaire histoire.
C'est une histoire de dingue. Et alors, oui, c'est une anecdote, vous allez me dire, mais simplement,
non,
ça montre bien.
C'est une histoire, plus qu'une anecdote.
Mais au-delà de ce cas individuel, je veux dire, ça montre bien que ces montres qui, effectivement, ont longtemps été considérées comme de simples gadgets, elles l'ont longtemps été, c'est vrai,
elles mesurent
le nombre de pas, les calories, etc. Elles ont maintenant une utilité réelle avec toutes ces fonctionnalités qu'on peut leur ajouter.
Oui, et ces montres ont d'autres fonctions. Elles ont déjà sauvé des dizaines de vies en détectant, par exemple, des anomalies cardiaques.
Oui, parce qu'elles sont aussi équipées d'électrocardiogrammes, alors qui n'est pas le même que celui que vous avez chez le cardiologue, mais qui sont quand même des lanceurs d'alerte extrêmement perfectionnés. Je ne parle pas seulement de celles d'Apple. Il y a par exemple les montres françaises de WeSings, qu'on a eu par exemple sur les trophées PM, je ne sais pas si vous vous souvenez,
les marques françaises.
Eh bien, elles ont un électrocardiogramme. Et effectivement, il y a des dizaines de cas où des personnes ont été tranquillement assises dans leur canapé à regarder la télé ou allongées dans leur lit. Et puis tout à coup, la montre se met à biper. Eux se sentent très bien, mais en réalité, leur cœur bat très vite. Et en réalisant un test rapide sur la montre, eh bien, elles se rendent compte qu'il est grand temps d'aller au SAMU. Et là encore, c'est la montre qui leur sauve la vie.
Et puis, on a eu l'histoire de cette Canadienne.
Ah oui.
De cette Canadienne qui a échappé à un viol. C'était cette semaine, grâce à sa montre connectée.
À sa montre et à sa vivacité d'esprit. Sa montre l'a bien aidée. Alors, en fait, le procès a eu lieu cette semaine. L'affaire, elle remonte au mois d'avril. Et donc, dans la ville de Calgary, on est au Canada. La victime est allongée dans son canapé. Tout à coup, l'agresseur, qu'elle connaissait, entre chez elle. Il lui prend son téléphone pour éviter qu'elle ne puisse appeler les secours. Elle fait semblant de dormir et elle va envoyer discrètement, en passant par sa montre connectée, un SMS à son compagnon qui va pouvoir prévenir la police et la police va intervenir très rapidement et sauver cette jeune femme. Donc là encore, une histoire où à partir de ces petites montres, de ces petits gadgets connectés, eh bien on est parvenu à sauver réellement une personne.
Merci Anthony. Christophe.
Allô. Allô.
Oui, mon cher Christophe, vous êtes à Fontenay-le-Comte, c'est en Vendée, ça, hein, Christophe ?
Oui, je le suis de Vendée, Jean-Jacques, bonjour.
Voilà, Vendéen avec nous ce matin. Christophe, vous êtes conducteur de car, je crois, hein, Christophe ?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Conducteur de car, en effet, oui.
Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin ?
Ah, la télé. La plupart des matins, quand je ne travaille pas, je vous regarde.
Bon, ben merci Christophe de nous regarder, vous êtes très nombreux en ce moment d'ailleurs. Je perds ma voix.
C'est l'émotion.
Non, ça arrive. À la télé, à nous regarder sur la 24. RMC Découverte.
Oui.
Christophe.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et Christophe, vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec.
Eh ben, j'en suis ravi. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi gentil. Aussi, j'en suis ravi. Très heureux. Bon, Christophe, bonne journée. Merci.
Ouais, bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Merci. Il est 6h56.
Chaque matin dans Bourdin Direct sur RMC, gagnez une Nespresso et les capsules compatibles Le Gall, végétal, biodégradable et compostable. Une innovation mondiale signée Le Gall, le goût.
Charles.
À 8h10, vous avez rendez-vous avec Nicolas Poincaré qui va nous parler de la dépouille du général Franco exhumé hier de son mausolée à la demande du gouvernement espagnol pour être réenterré dans un petit cimetière près de Madrid. Ce mausolée était devenu un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de la dictature et ce n'est pas le seul pays embarrassé par une tombe d'anciens dictateurs. Nicolas Poincaré va tout nous expliquer à 8h10 dans Expliquez-nous.
Hein. Oui.
À 7h20, le changement d'heure dans Du Pain Quotidien, ce sera fini en 2021, mais en attendant ce week-end, on va pouvoir dormir une heure de plus. À 3h dimanche, il sera 2h.
Il est 6h57, oui Mathieu.
Les inondations dans le sud de la France, une victime emportée par les eaux à Cazouls-d'Hérault. Nous sommes avec le maire de la commune, il était allé la voir une heure avant qu'elle disparaisse, avec nous après le journal de 7h sur RMC.